Contes et lectures. Karl-Aurue Exeguer.
Bonsoir et bienvenue. L'écritoire de ce soir continue de vous emmener dans les méandres enchantés des contes zen. Alors on s'installe confortablement et on écoute la première de ces lectures dont le titre en est « Le taureau et les 100 chariots de pierre ». La légende rapporte que Sakyamuni, le Bouddha, naquit dans l'une de ses vies antérieures sous la forme d'un petit veau. Traité avec gentillesse et affection par son maître, un noble brahmane, le bovillon devint un taureau puissant et doux. Il voulut récompenser le saint homme, mais il lui apparut en songe. « Maître, dit-il avec respect, propose un défi à ton voisin, le riche marchand. Affirme-lui que je serai capable de tirer 100 chariots emplis de pierres. Engage sur ce pari 1000 pièces d'or. » Le noble brahmane croyait au rêve. Il alla trouver le riche marchand et lui parla de ce défi. Le voisin estima que le saint homme était un simple ou un fou. Mais il était avide et sans scrupules, il accepta, tout en riant sous cap de la naïveté du bonhomme. Au jour convenu, le brahmane fit charger 100 chariots de pierre. Il attela le taureau, s'empara des rênes. Il était anxieux. Il avait misé toute sa fortune sur ce pari et il s'écria « Tire, tire! Même si tu dois mourir sous l'effort, j'ai engagé 1000 pièces d'or et je ne suis pas riche. Tire » hurla-t-il et il fouetta cruellement l'animal. Le taureau roulait ses puissantes épaules, mais il semblait cloué au sol et les chariots ne bougèrent. « Maudit eunuque, je te ferai gorger, j'abandonnerai ta charogne au vautour !» Rien n'y fit. Les 100 chariots ne s'ébranlèrent pas d'un pouce. Le brahmane perdit son pari. Il donna 1000 pièces d'or au marchand qui se moquait ouvertement de lui. Ruiné et honteux, il entra dans sa demeure et s'endormit dans son chagrin. Or, cette même nuit, le taureau lui apparut à nouveau. Il parla ainsi. La douceur, la bonté, les paroles aimables sont plus efficaces que les injures et les coups. Interroge la compassion qui est au fond de ton cœur et tu gagneras ton pari. Relève le défi et propose cette fois 2000 pièces d'or à ton voisin. En s'éveillant le lendemain, le brahmane se souvint de son rêve. Il hésitait. Je vais sans doute me ridiculiser, se disait-il, mais je suis ruiné et je n'ai plus rien à perdre. Après tout, pourquoi ne pas tenter cette gageure? Le marchand l'écouta avec incrédulité. Ce saint homme est vraiment trop stupide, songea-t-il. Mais tant pis pour lui. 2000 pièces d'or sont toujours bonnes à prendre. Il accepta le défi. Aujourd'hui, on remplit 100 chariots de lourdes pierres. Le marchand vérifia soigneusement que tout était garni à ras-bord. Le taureau semblait guiré. Il portait autour du cou une guirlande de fleurs et on l'avait nourri le matin même avec du riz parfumé. Quand le signal du départ fut donné, le brahmane lui murmura à l'oreille « Ô taureau, mon ami, mon cher Nidavisala, j'étais toujours bien traité. » Depuis le jour de ta naissance, je t'ai nourri de bons gruaux, soigné, protégé, alors que tu n'étais qu'un petit veau sur ses pattes vacillantes. C'est que j'ai pour toi de l'affection, beaucoup, et mon cœur est plein de compassion et d'amour pour tous tes frères. » Ayant dit, le brahmane monta sur le premier char, fit claquer doucement sa langue et le taureau, dans un effort titanesque, ébranla les 100 chariots et les tira sur une distance de 12 mètres. La compassion, l'amour, bienveillant, le partage des maux d'autrui est la plus belle des vertus. Elle présente un caractère magique, affirme le Dalai Lama. Le bébé qui manque par trop du lait de la tendresse humaine en meurt. Aucune éducation ne porte ses fruits sans compréhension, patience, affection. Et le mourant a besoin qu'on lui tienne la main. Nous sommes des animaux sociaux, nous dépendons les uns des autres, nous avons besoin de leur bienveillance et de leur amitié. Quand je me promène dans mon village et que je rencontre un visage hostile ou indifférent, un nuage assombrit ma journée. Je souris à tous. J'offre à tous mon amour silencieux, même à ceux qui me tournent le dos. C'est que la compassion est une vertu qui a de l'écho. Le bien qu'elle fait à autrui nous est rendu au centuple. La compassion, affirme le zen, est un raccourci vers le bonheur. Après ce texte d'une subtile moralité, la suivante, Guanjing le chauve, débute comme cela. En ce temps-là, un gouverneur de province nommé Guanjing souffrait d'une disgrâce qui le perturbait plus que de raison. Il était chauve. Mais entièrement chauve. Son crâne était un désert. La plaine d'Europe centrale après Attila, un crâne poli, tel en diamant, selon l'heureuse expression en usage au Tibet, pays de poètes. Un bel après-midi d'été, Guanjing était assis à l'ombre de sa terrasse, prenant le frais devant une jarre de bon vin, quand il vit dans la rue un maître barbier qu'il connaissait de réputation, Agabunda. Ce dernier se hâtait sans un regard pour le gouverneur. « Comment oses-tu maintenant ?» s'écria Guanjing. « Passer devant moi sans me saluer en faisant insolemment teinter les grelots de ton cheval ?»« Pardonnez-moi, seigneur, » dit Agabunda, « c'est que je suis pressé. On m'attend chez un magistrat de la ville. Je dois aujourd'hui même lui planter des cheveux. »«
Comment cela, lui planter des cheveux ?» fit Guanjing.
« Eh ben oui, seigneur.
« Ne savez-vous pas, ajouta Agabunda avec un rien d'impatience, que l'on plante des cheveux comme on plante des navets ?»
C'est un travail fort bien payé. L'on m'attend et je ne voudrais pas.
Hola, hola, fit Guanjing. Je suis le gouverneur de la province et je dois être servi le premier.
Monte sur la terrasse. Tu vas me planter des cheveux.
Mais seigneur, gémit Agabunda, que va dire le noble Jida? Il va me fouetter.
Cesse de discuter et monte immédiatement ou je te fais appréhender par mes gardes. Agabunda prit un air résigné. Il arrêta sa carriole, attacha son cheval et grimpa sur la terrasse après s'être muni d'une lourde sacoche. Il salua très bas le gouverneur, prit place sur un tabouret, installa sur ses genoux une peau de mouton polie. Ensuite, il saisit un poinçon dont il vérifia soigneusement l'ardillon. Enfin, il empoigna une touffe de poils de yak. Guanjing observait ses préparatifs avec un peu d'inquiétude.
« Attention à toi si tu ne me plantes pas convenablement des cheveux, menaça-t-il. » À tout hasard.
Je suis un expert en ce domaine, assura Agabunda.
Ne vous faites aucun souci. Et maintenant, posez s'il vous plaît votre tête sur la peau de mouton poli.
Le gouverneur s'exécuta. Agabunda, d'un geste vif, saisit son poinçon et perça le crâne glabre du gouverneur.
Aïe ! Que fais-tu ? S'écria Guanjing.
Ne bougez pas, seigneur, fit Agabunda. « Ne vous ai-je pas dit que pour planter des navets, il fallait d'abord creuser un trou dans la terre ?» Il prit une grosse touffe de poils de yak, les disposa avec soin dans le trou qu'il venait de forer dans le crâne. Il les arrangea un moment avec le coup d'œil de l'artiste. Enfin satisfait, il reprit son poinçon et recommença.
« Aïe, 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 aïe !» hurla Guanjing.
« Cessez vous agiter ainsi, le gronda Agabunda. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions ?» Le gouverneur releva un peu la tête et questionna presque timidement.
« Dis-moi, Agabunda, combien dois-tu percer de trous dans mon crâne pour obtenir une coiffure convenable ?»«
Fit Agabunda, je ne sais pas exactement. Vous avez une grosse tête, disons une petite centaine. »«
Sans trous ?» s'exclama Guanjing horrifié. « Ce n'est pas possible. Je n'y survivrai pas. »
« Enfin, seigneur, » dit Agabunda d'une voix sévère, « j'aimerais bien savoir ce que vous voulez. Vous vous conduisez comme un enfant capricieux. Parmi ceux que j'ai eu l'honneur de servir, plus d'un quart a survécu. Voyons, il fit un comptant sur ses doigts. Oui, c'est bien cela, si j'inclus le marchand de poissons qui est demeuré sourd et aveugle. Mais c'est un regrettable accident et... «
Ça suffit !» protesta Guanjing en se relevant brusquement. « Je préfère la vie aux cheveux. »«
Comme vous voudrez, seigneur, » fit Agabunda en s'inclinant très bas. Et il s'en alla. « Maître, Pourquoi vous contentez-vous de cette histoire ? Demanda le plus hardi des pratiquants de zen. Chacun de vous ne cesse de m'interroger pour savoir s'il connaîtra l'éveil, s'il verra la lumière de Bouddha. Mais voulez-vous réellement entrer dans la voie ? Voulez-vous vraiment que je plante le zen dans vos têtes frivoles ? Conclut-il d'une voix terrible. Les disciples se taisaient. Car toute spiritualité authentique exige que l'on meure à soi-même, et le zen, le bodhisattva zen dans sa plénitude, n'est accordé qu'à ceux qui se dépouillent de toute ambition, de tout bien, comme fit le moine Ryokan.